média pour moi et finalement, c'est juste une manière pour moi de me débattre. T'sais, on a vu une histoire là, récemment là,
d'une oui, fille qui a fait hospitaliser sa mère
parce qu'elle voulait le logement et qu'elle voulait se débarrasser de sa mère. T'sais. Donc, c'est un équilibre qui est vraiment difficile à trouver. Puis, tu sais, je veux juste vous dire, il y a une certaine époque, là, il y a des maris, là, quand j'entendais Jeannette Bertrand raconter ça récemment, il disait quand un mari voulait se débarrasser d'une femme, il disait qu'elle était folle, il l'envoyait se faire lobotomiser à l'hôpital. T'sais, il y a ça aussi, il faut faire attention aux effets pervers.
Mais on dirait qu'en même temps, plus il y a des situations qu'on a nommées trois en dedans d'une minute. Là. Plus il y a des situations comme celle-là qui arrivent, plus tu te poses des questions. Puis on a reçu en onde, il y a un an, une famille complètement désespérée, le fils et le frère, parce que c'était la fille et le père qui sont venus nous parler, est schizophrène. Puis il prend pas sa médication. Puis ils ont été capables, à un moment donné, d'amener ça en cours pour qu'il apprenne pendant un certain temps puis qu'il soit supervisé. Mais ça, c'est pas éternel. Après ça, il est relâché, tu comprends? Puis les menaces à la famille recommencent. C'est un enfer, là. Fait que c'est dur de trouver l'équilibre. Mais en même temps, tu vois des situations comme ça apparaître des médias, puis tu te dis, là, es-tu quelqu'un qui va prendre ça au sérieux?
Ben même Xavier Galati, qui est l'homme qui est soupçonné d'avoir tué le propriétaire du dépanneur à Montréal, cet homme-là, lorsqu'il avait été amené à l'hôpital, l'hôpital s'était rendu compte qu'il ne prenait plus ses médicaments contre ses troubles de santé mentale. Puis malgré ça, l'hôpital, légalement parlant, n'a pas eu le droit de le retenir, étant donné qu'il n'était pas une menace immédiate. Également, justement, vous parliez, parce que la question se pose, lorsqu'on regarde des drames qui se produisent, pourquoi cette loi-là existe? Pourquoi elle est en place? Puis Maître Guertin résumait un peu les propos plus tôt que faut pas oublier que la Charte des droits et libertés.
La balise principale, le code principal de la P38, en fait, c'est la détention contre le gré. Hein. Fait qu'on détient quelqu'un contre son gré au niveau hospitalier. Maintenant, bien que la libération puis la liberté, ce soit la règle, il faut quand même que ce soit encadré. Ces gens-là ont quand même des droits. Il y a la charte qui s'applique à ce moment-là.
Puis c'est intéressant, on posait la question, la limite de la liberté est où? Puis c'est surtout ça qui fait en sorte que cette loi-là ne peut pas être changée présentement. En mai 2023, Lionel Carman, qui était ministre des responsables des services sociaux, à cette époque-là, avait demandé à l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice de se pencher sur le code de la loi P38 pour justement la réformer, parce que ça date pas d'hier, là. Ça fait des dizaines d'années que dans le milieu, que ce soit des psychiatres, que ce soit des policiers, on demande que cette loi-là soit revue. Il a obtenu une réponse du rapport de justement l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice qui, pour eux, cette loi-là ne doit pas être changée, qui, pour eux, le facteur immédiat, c'est la limite qu'il ne faut pas dépasser dans obliger une personne à recevoir
ça revient,
des soins.
Tu sais, il y a Christian qui nous écrit, le problème, c'est le mot danger immédiat, c'est trop réducteur. Juste changer immédiat pour genre imminent ou quelque chose de semblable, oui, ça pourrait faire toute la différence.
Ça ferait toute la différence, mais encore une fois, le problème, c'est que la ligne, on la trace où? Qu'est-ce qu'on franchit? Puis présentement, cette ligne-là, qui ferait toute la différence, ensemble, pas vouloir la franchir.
On parle de la P38 avec Mathias Turcotte, qui est allé creuser un peu ce dossier-là, là, suite à tout ce qu'on voit au niveau santé mentale et drame humain qui s'ensuit. Je veux juste vous dire que là, il est passé 16 heures. Là. Le budget, ça va commencer à sortir dans les prochaines minutes. On regarde tout ça, on surveille ça, puis dès qu'on est capable de vous donner des nouvelles, on le fait.
J'ai parlé justement à Pierre-Hugues Boisvenu, que lui, il est vice-président de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Parce que lui, malheureusement, il en voit beaucoup des cas de famille qui perdent des proches en raison d'une personne qu'on n'a pas pu intervenir en raison de la P38. Puis pour lui, justement, la limite où qu'on dit est-ce qu'on hospitalise quelqu'un de force ou non, ben faut quand même s'assurer de la sécurité de la société.
Quand j'entends l'Association de défense des droits des malades mentaux qui disent qu'il faut traiter ces gens-là avec les mêmes droits qu'une personne normale, je suis bien d'accord. Mais lorsque vient le temps de traiter la maladie, on n'est plus dans le même registre des droits. Il faut traiter la maladie en fonction de protéger l'enfant et protéger la société. Et si cet enfant-là ou cet homme-là n'a pas la capacité de se soigner ou décide de ne pas se soigner du tout, il ne veut pas prendre ses médicaments, il faut que ce soit l'État qui prenne la place.
Tu sais, là où est mon malaise, puis je suis encore une fois d'accord avec ce que tu dis, Antonine, tantôt, sur l'équilibre est tellement difficile à aller chercher. Mais il me semble qu'à un moment donné, après plus qu'une fois, il faut allumer. Là, je vous parlais tantôt de Maureen Bro, la sergente qui a été tuée du côté de Louisville. Elle, là, elle s'en allait avoir une promotion. Son chum qui faisait le même job qu'elle, dans le corps policier, deux jeunes enfants, n'était pas sur son corps, est allé donner un coup de main. Le gars, ça faisait plus que 7 fois qu'il avait été arrêté.
Et voilà. C'est que je pense que ça prend une gradation aussi. T'sais, c'est parce qu'on a le fantasme.
Qu'elle arrive vite, là. Après une fois,
c'est
mais ça. Semble...
Mais on a le fantasme dans notre société. C'est normal de vouloir prévenir tous les crimes avant qu'ils n'arrivent. Bon. On s'entend, c'est pas possible. Quand quelqu'un, ça arrive de nulle part, c'est une première fois, il se passe quelque chose, bien là, évidemment, c'est tel que tel. Mais quand ça fait 7 fois, quand on voit que c'est de la récidive, quand on parle de maladies mentales qui sont incurables, là, des cas de schizophrénie où on sait qu'il y a un danger potentiel chez une personne depuis longtemps, c'est là qu'on se dit, bien voyons, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'agir un petit peu plus sérieusement? Oui, les droits de la personne, évidemment, on ne veut pas que cette personne-là soit maltraitée, mais hospitalisation, ça ne veut pas toujours dire maltraitance non plus.
Pas en tout.
Au contraire, souvent, ça veut dire le contraire. Puis, je trouve ça intéressant que tu parles du cas de Maureen Bro, parce que la personne qui a commis le geste irréparable dans ce cas-ci, les policiers s'étaient rendus à plusieurs reprises sur place. Puis à chaque fois, on posait les mêmes questions à la famille. Craignez-vous pour sa sécurité? Et par la suite, avez-vous un motif qui vous permet de dire qu'il va s'attaquer à quelqu'un ou non? Puis la réponse à chaque fois à ces deux questions-là, c'était non. Donc, les policiers regardaient la situation, regardaient l'individu en question qui était calme.
C'est pas prévisible non plus, là.
C'est pas prévisible. Puis les policiers, si c'est pas sur le moment même, ils peuvent pas intervenir.
Kim Lebel, dans notre cours, qui a fini par tuer quelqu'un, là, Véro l'a dit tantôt, ses parents étaient au poste de police. Pas la première fois qu'on levait le flag pour dire « Hey, notre fils nous fait peur, là. Mm-hmm. Faut que quelqu'un intervienne, là. »
Puis dans ces situations-là, quand des membres de la famille agissent puis commettent l'irréparable quand la famille l'avait vu venir, ou même quand une famille perd un proche à cause de quelqu'un d'autre qui a intervenu, ou quelqu'un même dans la famille qui a tué un proche parce qu'on n'a pas pu intervenir, c'est ça que je discutais justement avec M. Boisvenu. Pour les familles, c'est excessivement difficile, des situations comme ça.
Évidemment, lorsque le meurtre a lieu, dans la famille même, un garçon qui tue ses parents, vous fait comprendre que la famille va être complètement divisée. Est-ce qu'on a fait notre possible pour aider cet enfant-là? Pourquoi que les policiers n'ont pas répondu à notre appel? Pourquoi que le système de santé mentale n'a pas soigné, suivi notre enfant? Et dans beaucoup de cas, pourquoi notre enfant n'était pas interné? Il ne pouvait pas être remis en liberté parce qu'il n'avait pas la capacité de prendre des décisions par rapport à sa maladie.
Ça doit être épouvantable. Tu dois te sentir tellement démuni, là, comme parent, là, d'avoir l'impression d'avoir essayé de faire une différence, puis d'avoir essayé de lever la main.
Puis que tu te rends compte que finalement, le système actuel ne t'abandonne. Te permettait pas d'avoir l'assistance requise. Puis justement, je termine avec cet extrait-là. Charline Guertin, avocate criminaliste, m'a noté que justement, une piste de solution pour changer ce projet de loi-là, ce serait peut-être donner un peu plus de marge de manœuvre aux proches des personnes atteintes de troubles mentaux.
Tu sais, les personnes les plus proches de ces gens-là, qui sont, sans dire des bombes à retardement, mais qui peuvent, qui pourraient potentiellement l'être, c'est l'entourage. C'est eux qui les connaissent le plus. J'ai personnellement eu des clients, des familles qui m'ont appelé pour interagir ou réagir dans ce genre de situation-là. Puis malheureusement, il y a un processus à suivre qui est devant la cour, puis il faut présenter une demande devant le juge, à moins que le danger soit immédiat et que la P38 s'applique via l'intervention des policiers.
Donc, ça fait en sorte que si un parent voit qu'il y a potentiellement un danger, veut agir, c'est un processus excessivement compliqué. Puis là, la question se pose, est-ce qu'on va changer cette loi-là? Parce que ça fait plusieurs ministres qui se succèdent.
Ça fait des années, là, qu'on en parle.
Ça fait des années qu'on en parle. Puis encore une fois, aujourd'hui, Sonia Bélanger, ministre de la Santé et des Services sociaux, a annoncé qu'un projet de loi rigoureux sera déposé dans le but de moderniser la loi P38. Mais est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se réaliser? Parce que c'est pas la première ministre responsable des services sociaux.
Ça, ça paraît bien de l'amener sur la table, mais il faudrait amener qu'on avance. Amène le processus.
À quelques mois des élections en plus, ouais, on se doute bien que ça va pas être un projet de loi qui va se passer en 2-3 jours. Là, c'est compliqué, c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver.
Absolument. Mathias, c'était super intéressant. Mathias Turcotte, qui est notre journaliste sur le terrain. Si vous avez des dossiers qui vous intéressent, des affaires qui vous shakent, des trucs qui se passent dans la Ville de Québec, vous avez des questions, que ce soit plus humain, politique, peu importe. C'est simple, vous lui écrivez un courriel. Le courriel, c'est...
citoyen@blvd.fm.
Voilà, Mathias, je te souhaite une belle fin de journée. Merci, tu viens quand tu veux. La porte est toujours ouverte.
Bien sûr,
d'ailleurs, on va se parler demain post-budget, là, à savoir qu'est-ce que ça veut dire pour la Ville de Québec. Je sais que tu travailles sur un dossier. Il est 16h10. On n'a toujours rien en ce moment par rapport au budget. Je vois le ministre Éric Girard
qui va commencer son discours. S'installer. Ça va débouler dans les prochaines minutes, mais peut-être faire rapidement un tour de nouvelles. Parce
absolument,
qu'il y a quand même
oui.
des éléments qui ont bougé cet après-midi. D'abord, selon la Federal Aviation Administration aux États-Unis, il y aurait des vols qui seraient arrêtés à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau à Montréal parce qu'il y aurait eu une alerte à la bombe. Les vols qui seraient arrêtés à partir de maintenant jusqu'à... en fait, devraient rester en vigueur de 19h à 21h, donc 17h15, heure de Montréal.
Ça va bien pour les voyageurs.
Ça va vraiment bien pour les voyageurs ces temps-ci, avec une possibilité d'extension. Très peu de détails qui sont sortis à ce moment-ci. Sinon, dans les autres nouvelles, il y a un des co-accusés dans l'histoire de terrorisme à Québec. Là, tu sais, les gars qui voulaient prendre une portion de territoire à Portneuf puis qui étaient en train de se monter une espèce de petite milice. Il y en a un des trois aujourd'hui qui demandait d'avoir sa liberté en attendant les procédures. Raphaël Lagacé, qui n'a pas réussi à convaincre le tribunal de le remettre en liberté, sont deux, donc deux à rester à l'intérieur. Les trois co-accusés qui vont revenir devant le tribunal au mois de mai en prévision d'un procès devant jury. Les dates n'ont toujours pas été déterminées. Il y aura des portes ouvertes tramcité pour que les citoyens puissent avoir posé leurs questions par rapport aux chantiers qui auront lieu en 2026, qui prendront place dans l'ouest du projet, soit dans les secteurs Chaudière et Plateau de Sainte-Foy. On dit que ce sera l'occasion pour eux de s'informer sur le détail des travaux à venir, sur les conditions locales de mobilité, incluant le transport en commun, ainsi que sur les interventions de foresterie urbaine. Ce sera jeudi le 9 avril de 14h à 20h et ça se déroulera dans le bureau d'arrondissement de Sainte-Foy. Ça fait beaucoup jaser le chanteur Patrick Bruel qui serait visé par au moins deux plaintes, une pour agression sexuelle et tentative de viol et l'autre pour viol, dont une qui a été déposée la semaine dernière à Paris et l'autre qui remonte à 2024 à Saint-Malo. Ça, c'est le dépôt des accusations. Le média qui a sorti ça rapporte aussi qu'il y a des accusations de 6 autres femmes pour violence sexuelle pour des faits qui se seraient déroulés entre 1992 et 2019. Patrick Bruel, le chanteur, par la voix de son avocat, a mentionné qu'il n'avait jamais cherché à convaincre quiconque à un acte sexuel, n'avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou à un rapport sexuel.
Dans la circulation, peut-être vous dire rapidement qu'il y a quelques problèmes en ce moment sur Robert Bourassa Nord. Début de la sortie vers Cyril-Duquet, c'est partiellement entravé. Accident, quand je regarde la carte en ce moment, sur la capitale direction Est, auteur Robert Bourassa, particulièrement difficile. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction Nord, entre Charest et la capitale, là, c'est épouvantable comment c'est bumper à bumper en ce moment. L'entrée des ponts, ça n'a pas bougé non plus. Si vous êtes sur Henri IV, à partir de Charest jusqu'au pont La Porte, difficile. Duplessis Sud, je vous dirais de Charest au pont, très au ralenti également. Plus haut, dans le coin de Shannon, devant la base militaire, il y a des problèmes sur route de la Bravoure dans les deux directions. Route de Fossambeau, même chose qu'à l'habitude, entre route des Érables puis de la Jacques-Cartier. D'ailleurs, sur de la Jacques-Cartier, là, je vous dirais, à l'approche de Fossambeau, il y a un ralentissement inhabituel. Quelques problèmes sur la rive sud aussi. Ça se passe sur la 20 direction ouest. À la hauteur de Chemin des Îles, quelques ralentissements. Hauteur Taniata, évidemment, s'il y a autre chose. 418-971-1021. On est à moins 9 présentement. Commence à y avoir quelques nuages. Le ciel est encore assez bleu et beau pour l'instant. On est à moins 16 ressentis ce soir et cette nuit. Moins 11 partiellement nuageux. Dans les prochains jours, on est autour de 0 degré avec faible neige intermittente. Samedi, il y a le soleil qui pourrait faire une petite apparition. Là, on est à 1 degré, alternance soleil-nuages et les averses qui seraient de retour à partir de dimanche pour ce qui est de lundi et mardi. On est toujours en attente de certains détails concernant le budget Girard. Je vois à l'écran un budget dans la continuité.
Ça, on le savait déjà hier, oui. On en avait déjà parlé. Là.
Donc, dans les prochaines minutes, on pourra vous donner un peu plus de détails. Antonine, j'ai quasiment envie qu'on se fasse une petite jasette pré-budget, tiens, parce que à 16h30, Véro va nous donner des détails, mais à 16h30, on va voir Francis Gosselin, docteur en économie, qui va nous parler un peu plus du volet, justement, économique qui peut nous toucher. Il y a quand même une belle analyse politique à faire derrière ça. C'est le 8e budget Girard, probablement le dernier de la CAQ. Comment ça fonctionne, hein, un budget?
D'abord, tu sais, on dit le 8e est sûrement le dernier. Effectivement, ça prendrait quand même un gros revirement de situation pour que...
Il faudrait qu'il y ait une combustion spontanée de tous les partis adversaires de la CAQ.
Écoute, on ne sait jamais en politique. Éric Girard, en passant, c'est un ministre des Finances avec une grande longévité. Là. C'était Jacques Parizeau, le dernier ministre des Finances qui avait duré aussi longtemps. Il va avoir fait ses 8 ans. En fait, il va avoir fait les 2 mandats de la CAQ au complet, survécu à plusieurs remaniements et une élection en 2022. Comment ça marche un budget? Écoute, il y a une mise à jour économique en novembre. Hein. C'est comme un mini-budget qu'on appelle, mais ça sert surtout la mise à jour économique à faire un état des finances publiques. Donc, on en est où quelques mois après les élections? Puis l'économie, les indicateurs économiques. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que économie et finances, c'est 2 choses différentes que j'ai mélangées pendant bien longtemps.
Mais il y a bien du monde qui mélange.
Bon, alors démélangeons-les.
Je te dirais que jusqu'à ce qu'on ait Francis Gosselin, qui est docteur en économie en ondes, on était plusieurs à... On joue pas ces mêmes tableaux, mettons.
Donc, l'économie, ben c'est qu'est-ce qui se passe dans notre économie. Donc, on parle de l'emploi, du chômage, de l'inflation et tout ça. Alors, que les finances, ben, c'est vraiment le budget. Là. Donc, tu as une colonne de revenus, puis tu as une colonne de dépenses, puis tu as des déficits ou des surplus selon. Et le ministre des Finances a quand même une responsabilité de nous faire un portrait de comment ça se passe dans l'économie. Pourquoi? Parce que le budget découle aussi de ça. Quand l'économie va bien, il y a beaucoup de revenus qui vont rentrer. On va acheter plus, donc il va rentrer plus de taxes dans les coffres de l'État. Quand l'économie ralentit, il y a moins de revenus, et c'est là souvent que les gouvernements vont faire des déficits. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Donc, quand le budget est préparé, on nous fait aussi le portrait de comment ça va l'économie du Québec, puis on surveille ça également, pas
on
juste les mesures.
On s'attend à quoi, mettons, là, parce qu'il y a quelques petites affaires qui ont, je dis, coulé, pas en tout. C'est Éric Girard qui est sorti avec quelques affaires pour essayer de rassurer la population.
Oui. En fait, on nous a baissé les attentes dans les dernières semaines parce que le portrait n'est pas rose, on va se dire les vraies choses. Déjà, l'année passée, 7e budget d'Éric Girard, ben, ça arrivait dans un contexte où il y avait les tarifs de M. Trump, beaucoup, beaucoup d'instabilité. C'était difficile hein, de faire un budget qui allait vraiment tenir pendant un an, là, avec toute cette imprévisibilité-là. On se rappelle...
Déficit sous les 10 milliards, oui. En passant, qu'on en fait, voit le... à la télé. Excuse, Anto, je t'ai vraiment coupé. Je vois l'information sortir. Là.
Le chiffre qu'on a, le manque à gagner pour 2026-2027 serait de 8,6 milliards. Puis d'ailleurs, on prévoit que le déficit qui était prévu pour l'an dernier a été revu à la baisse là, à 9,9 milliards. Fait que c'est voilà. Des cheveux en dessous de celui qu'on nous avait présenté lors de la dernière mise à jour économique qui était à 12,4 milliards
exactement.
De dollars.
Exactement. Puis, en termes de communication politique, on nous avait préparé à pire dans les derniers mois. Donc, ça peut nous donner l'impression que c'est pas beaucoup, mais je vous le dis, c'est beaucoup.
C'est
surtout pour un gouvernement provincial. Parce que quand tu regardes, par exemple, le fédéral, on a un déficit au-dessus des 60 milliards de dollars. Mm-hmm. Puis là, c'est rendu tellement des gros chiffres qu'on a l'impression finalement que 9 milliards, c'est rien.
On prévoit un retour à l'équilibre budgétaire en 2029-2030.
On a le temps, on se donne du temps. L'année passée, en fait, je pense que M. Girard aurait souhaité avoir un plan de retour à l'équilibre budgétaire beaucoup plus tôt.
Alors que là, il respecte simplement celui qu'il avait déjà mis
exactement.
En place. Presque malgré tout, il y a des manques à gagner pour même pouvoir le respecter.
Oui, puis il faut quand même aussi comprendre le contexte dans lequel on se trouve présentement. Là, avec les tarifs, avec les soubresauts économiques, de faire un plan très rigide de retour à l'équilibre budgétaire, là, ça aurait des impact important et notamment probablement sur vos services. Ou alors l'autre option, c'est toujours d'aller chercher plus d'argent dans nos poches. C'est pas non plus une bonne idée en ce moment alors que tout coûte cher et que l'essence a augmenté autant.
C'est-tu une bonne idée de faire un budget avant la fin? fin de la course.
La question, qui tue?
Hey, mon Dieu,
parce que c'est bizarre quand même comme situation. Ce budget-là survient dans un contexte où on a un premier ministre. En politique, on appelle ça un canard boiteux. Donc, c'est quelqu'un qui est dans un poste important, mais qu'on sait qu'il va quitter. Par exemple, quand il y a un nouveau président américain qui est élu en novembre, il va avoir une transition jusqu'à ce que le nouveau président va être instauré là, quelques semaines plus tard. Ben, l'ancien, c'est ce qu'on appelle un canard boiteux. Monsieur Legault, c'est un petit canard boiteux. Et Monsieur Girard, c'est comme un demi-canard boiteux. Là. Il a mal à une patte, mais il reste une patte parce qu'il y a quand même des bonnes chances qu'il soit renommé ministre des Finances par le nouveau chef de la CAQ ou la nouvelle chef de la CAQ. Et ça crée des situations bien étranges parce que Monsieur Girard a rencontré quand même Mme Fréchette et M. Dréville, nos deux candidats à la chefferie,
pour les aviser, dans savoir s'ils sont d'accord aussi, s'ils vont continuer avec ça.
Donc, il les a consultés. Mais peut-être que M. Dréville et Mme Fréchette avaient des demandes contradictoires aussi. Donc, ça, est-ce que les deux... est-ce que peu importe le chef qui va gagner va être à l'aise avec ce qui a été présenté dans ce budget Legault-Girard? Ça reste à voir. Puis c'est pour ça qu'on s'attend à un ajustement du budget un peu plus tard.
Je ne sais pas, si Antonine, tu vas voir la question. Peut-être qu'on pourra la poser à Francis aussi dans les prochaines minutes. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est possible que le déficit est plus petit vu le prix du gaz et prévoit avoir plus de revenus que prévu?
C'est une excellente question. Elle est très pertinente, mais l'augmentation des taxes sur l'essence, ce n'est pas assez élevé pour faire une différence. C'est marginal. Il faut comprendre aussi que le gouvernement a des frais supplémentaires, lui aussi, à payer quand l'essence augmente. Donc, non, je ne pense pas que ça ait un impact. Puis, il faut comprendre aussi que le ministre fait des prévisions. Mais il y a quand même des inconnus. Là. Évidemment, on ne peut pas tout prévoir. On n'est pas dans une économie contrôlée. Là. On n'est pas en Union soviétique.
Rappelle que le déficit est sous les 10 milliards de ce qu'on voit passer à la télévision. Évidemment, on va vous donner les détails au retour de la pause. Et on va se brancher avec Francis Gosselin, docteur en économie, pour essayer de se dépatouiller dans tout ça. Là. Qu'est-ce qui se passe aussi à Québec? Qu'est-ce qui nous touche? Est-ce que c'est une incidence sur nos portefeuilles? On a beaucoup des questions. Et si vous en avez, n'hésitez pas. 88-971-102 texto.
Pour joindre les...
Ouais.
Stop de Boulevard 102.1, lundi au jeudi, 7h55.
CTB Construction recrute. C'est une entreprise de construction dans la région de Québec qui œuvre dans le résidentiel neuf et dans les rénovations majeures. Vous êtes compagnon avec de l'expérience en construction ou encore en rénovation, bien, on veut vous rencontrer. On offre du travail à l'année. On essaie de trouver des chantiers le plus près possible de chez vous. Puis ajouter à ça une prime à l'embauche puis une équipe dynamique, puis le salaire est payé. J'imagine que c'est par décret. C'est pas un langage avec lequel je suis familière. Donc, ça vous tente de travailler pour CTB Construction? Postulez maintenant au carrière.fm.
Gravel dans le retour.
16h28 à Boulevard 102.1. Les détails sortent de plus en plus. On va pouvoir s'en jaser en profondeur dans les prochaines minutes. C'est excitant comme journée, le budget. Peut-être commencer par vous dire ce qui se passe sur les routes parce que c'est difficile en ce moment. Capitale-Est, carrément entre Henri IV et Laurentienne, c'est bouché. Direction Ouest, entre Henri Bourassa et Laurentienne, il y a des problèmes sur Robert Bourassa, direction Nord, entre Charest et la Capitale. C'est quand même assez difficile. Il y a également des troubles là, si vous êtes sur Henri IV Sud, de Charest au pont en ce moment. Duplessis, Charest au pont, Pierre-Laporte également. Un peu plus haut dans le coin de Shannon, devant la base militaire, route de la Bravo dans les deux directions, c'est pas réglé. Il y a également quelques ralentissements sur Fossambeau entre, je vous dirais, des Érables et de la Jacques-Cartier, donc quand même un classique, c'est plate à dire. Charest direction Est, hauteur Robert Bourassa, ça s'ajoute à tout ça. Et si vous êtes sur la 20 direction Ouest en ce moment, entre la route du président Kennedy et chemin des Îles, particulièrement au ralenti, quelques troubles aussi à la hauteur de Taniata. Véro, peut-être faire un tour de ce qui sort, là, parce que moi, je vois des affaires passer à la TV.
Il y a du stock, là.
Mais il y a sûrement un peu plus de stock de ton côté.
Il faut savoir que quand il y a un budget provincial, il y a un huis clos pendant la journée auquel des journalistes assistent et là, on leur présente l'entièreté du budget. Ça veut dire absolument tous les volets. Puis pendant ce temps-là, ils planifient au fur et à mesure les différents articles, les différents reportages et tout commence à sortir à partir du moment où le ministre des Finances, Éric Girard, commence son discours. Lui choisit les lignes qu'il veut mettre en valeur et les médias, eux, essaient de lire entre les petits caractères pour être capable de nous brosser un portrait qui va être plus juste de la situation puis qui va toucher tellement, mais tellement d'enjeux. Donc, à travers tout ça, ce qu'on peut retrouver à l'intérieur du budget. D'abord, c'est très, très rare qu'on arrive avec un dernier budget d'un gouvernement avant une élection où il n'y a pas de nanane pour les électeurs et c'est carrément ça. Fait qu'oubliez ça, les chèques, oubliez ça, les grands changements. Pour les contribuables, il y aura très peu de modifications. Par contre, à l'intérieur de ce budget-là, on a gardé une enveloppe pour le prochain ou la prochaine première ministre, un 250 millions par année, parce que de part et d'autre, ils ont pris des engagements. Probablement échaudés par la décote historique de l'année passée, on y va de manière beaucoup plus rigoureuse. On limite le plus possible l'augmentation des dépenses. D'ailleurs, on prévoit un manque à gagner de 8,6 milliards de dollars pour 2026-2027. Clin d'œil à François Legault qui disait hier qu'on laissait la maison en ordre. Le dernier premier ministre qui avait dit ça, on remonte à l'époque de Philippe Couillard, le déficit était de zéro, fait qu'il y a une méchante marge entre les deux. Ensuite de ça, ce qu'on peut voir à l'intérieur de tout ça, le plan pour le retour à l'équilibre budgétaire qui avait été déposé il y a un an de ça est maintenu. Fait qu'on espère le retour à l'équilibre en 2028-2029, ben en fait l'année d'après tout ça. Ensuite, les dépenses, quand je vous disais qu'on essayait de les limiter, c'est une hausse de 1,6%. C'est quand même assez touché parce qu'on pense que l'indice des prix à la consommation va dépasser le 2,3%, fait qu'il va falloir qu'on se serre la ceinture encore une fois. Croissance de 4,1% dans la santé, croissance de 2,4% dans l'éducation. On met de l'argent pour les logements, trois mesures qui totalise 740,9 millions sur trois ans. Infrastructure, il y a de l'argent, une grande majorité de la somme, c'est quelques 3 milliards de dollars, mais une grande portion de ça est uniquement pour le maintien de ce qu'on a jusqu'à maintenant. Pour ce qui est de l'infrastructure...
Ce qui n'est pas négatif.
Ben en fait, oui, mais ce qui est surtout nécessaire, ouais, parce que les derniers bilans sont franchement pas bons. Je n'ai pas encore vu les dépenses pour ce qui est des grands projets de la Ville de Québec. C'est tramway, troisième lien, mais on sait déjà que pour la ligne bleue du côté de Montréal, c'est 1,4 milliards de dollars. Il y a un 239 millions pour la lutte à la violence armée. Beaucoup de demandes en lien avec tout ça. Il y a l'Hôtel-Dieu de Lévis qui aurait son financement enfin pour son agrandissement. C'est une planification qui dure depuis des années et des années, mais on passera en phase réalisation. Il y a plusieurs autres détails qui continuent à sortir. Fait que je regarde ça pour vous autres.
C'est énormément de chiffres. Puis je sais pas vous autres, là, mais moi, c'est des journées où on dirait que ma tête avait un peu explosé. Là. J'ai la question simple de qu'est-ce que ça change dans ma vie à moi.
À date, rien!
Ironiquement, puis peut-être égoïstement, puis pour jaser de ça, bien, ça nous prend quelqu'un qui joue avec les chiffres tous les jours, qui surveille ça de près, Francis Gosselin, qui est docteur en économie, chroniqueur économique, précieux collaborateur de Boulevard 101 aussi. C'est beaucoup d'informations, Francis. Là, on est bombardé de tous bords, de tous côtés. C'est difficile des fois de suivre quand tout ça sort d'une shot parce que c'est fait à huis clos. Il faut attendre que ce soit levé. Fait qu'on va essayer de se démêler un peu. Comment tu qualifies, toi, comme économiste, là, ce budget-là?
Ben c'est sûr que, comme Véro le disait, c'est un budget de fin de règne, là, évidemment, puis avec une volonté de comme disait, bon, de laisser la maison en ordre. C'est peut-être un peu fort de café là, comme expression, mais grosso modo, on cherche tranquillement, pas vite, à réduire l'ampleur du déficit, mais ça reste historiquement quand même assez élevé. Puis effectivement, c'est drôle, j'en parlais un peu plus tôt avec un collègue, mais tu sais, il y a pas tant de nananes, effectivement, comme on les appelle pour telle ou telle catégorie là, de contribuables. Il y a des mesures pour les logements, là, pour les personnes les plus vulnérables, la culture et tout, mais ce sont de petits montants sur des assez longues périodes là, en proportion des besoins. Il y a rien pour la classe moyenne dans tout ça. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on aurait bien sûr tous voulu là, peut-être une aide plus directe, tout ça, mais je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup de Québécois qui vont être contents qu'il n'y ait pas eu trop de dépenses farfelues. Il y en a marre un peu là, des programmes sortis de nulle part, des déficits vraiment très importants. Fait que d'une certaine façon, c'est presque rassurant d'avoir un budget un petit peu plus posé là, comme dernier exercice pour l'équipe de François Legault.
Ouais, que c'est futile. Et d'Éric Girard. C'est futile pour moi. Ça sonne beaucoup plus le désespoir. On n'avait pas de marge de manœuvre pour rien faire. Il me semble que c'est un budget qui aurait dû être refait il y a quoi, 2-3 ans à peu près?
Ben oui, c'est sûr que c'est ça. Puis tu sais, à la limite, il n'y avait pas de marge de manœuvre. Mais après, c'est à toi de décider. Il aurait pu aussi nous annoncer un déficit de 14 milliards puis faire face à la musique. Là, c'est un choix qu'ils ont fait. Cette idée de marge de manœuvre, elle est un peu imaginée dans une certaine mesure. Il aurait pu décider de faire un plus gros déficit et d'en vivre avec les conséquences. Moi, ce que je retiens surtout, puis c'est un peu économique et surtout politique, c'est cette espèce de... Je sens qu'il y a comme un certain désamour là, entre François Legault et ses deux un potentiel successeur. Mm-hmm. Puis entre nous, laisser 250 millions, là, tu sais, je sais que ça sonne comme beaucoup d'argent pour monsieur, madame, tout le monde, là, mais c'est vraiment une poignée de change. Là, tu sais, s'il fallait donner de l'argent pour les automobilistes, par exemple, pour le prix de l'essence, ça serait comme tout le montant qu'on vient de donner, ça serait 25 $ par personne. c'est comme... C'est on peut rien faire avec 200... Hein?
C'est une bonne image que tu viens de faire là pour ben, démontrer qu'elle pousse pas gros.
On peut rien faire avec 250 millions. Là, ouais. Je veux dire, on peut, oui, rénover un bout d'hôpital, là, mais tu vois, je veux dire, c'est, on peut faire une chose, là, peut-être, là, puis encore, tu sais, pas au complet. Fait que ça, tu sais, c'est drôle, ces dernières semaines, on a quand même vu, et M. Drainville et Christine Fréchette, tu sais, critiquer, ou en fait, indirectement, bon, de dire, on va changer les règles sur l'immigration, on va faire ceci, on va enlever la taxe carbone. Tu sais, toutes des mesures que François Legault a comme insisté pour garder en place. Hier, Christine Fréchette a parlé de gaz de schiste. C'est quand même François Legault là, qui avait adopté l'interdiction. Fait que, mm-hmm. On sent bien que les deux candidats, finalement, ils renient beaucoup l'héritage de François Legault pour se faire élire, pour plaire à la population. Puis là, c'est comme si M. Legault, avec Éric Girard, laissait comme une petite pilule empoisonnée à ses successeurs en disant « t'auras aucune marge de manœuvre une fois premier ministre ». C'est quand même assez particulier comme façon de procéder aujourd'hui.
Quand le budget est rendu public, on est toujours intéressé aussi à se pencher sur le PQI pour voir un peu combien on va investir dans les infrastructures dans les prochaines années. On augmente encore le montant du PQI, mais là, on insiste davantage sur le maintien des infrastructures. Ça, c'est quand même aussi... C'est moins sexy que de découper des rubans puis annoncer des nouvelles choses, mais c'est nécessaire. Là, les gens aussi s'attendaient aussi à ce que ce soit un peu moins sexy là, du côté des annonces d'infrastructures, non?
Oui, c'est un peu moins sexy, mais ultimement, tu sais, t'as bien raison de le mentionner. Puis moi, je le salue, puis j'ai même déjà écrit à ce sujet-là, la CAQ n'a pas été particulièrement proactive là, en matière de d'entretien des infrastructures. On a même réduit là, toute proportion gardée les budgets qui ont été alloués à ça. De voir que, encore une fois, comme dernier ressort, là, ils rehaussent le seuil de contribution. C'est pas sexy, mais c'est des nids de poules. C'est nos hôpitaux qui font souvent la manchette mm-hmm. avec des toits qui s'effondrent. C'est pas sexy, mais il y a un certain sexiness. En tout cas, pour l'économiste en moi, honnêtement, je suis quand même content de voir qu'on remet un petit peu, puis j'ose espérer que qui que ce soit qui forme le gouvernement à partir d'octobre prochain, on va continuer de rehausser ça, effectivement, pas en développant des nouvelles infrastructures, puis en rajoutant des obligations, mais bien en prenant soin de ce qu'on a déjà. On veut pas avoir d'autres viaducs qui s'effondrent, puis d'autres hôpitaux qui sont incapables d'accueillir des patients. On a besoin de sécuriser ce qu'on a en place. Écoute, on est une économie développée, mais tu sais, on voit des fois les photos des hôpitaux, ça fait dur, là. Je veux pas nommer de comparatif, là, mais tu sais, ça fait pas pays riche de l'Occident, là. J'ai envie de dire que c'est quand même une des bonnes nouvelles dans ce budget-là, c'est le rehaussement de la contribution là, de quelques milliards de dollars au PQI.
Francis, dans la même lignée d'affaires qui n'ont pas l'air sexy sur le coup pour les contribuables, mais qui peuvent peut-être avoir leur effet, mine de rien, la situation géopolitique de la dernière année et demie a fait que certains créneaux ont souffert, que d'autres ont tenté de les pousser vers l'avant. Avoir enfin de l'aide pour tout ce qui est l'industrie forestière, est-ce que c'est quelque chose qui aurait dû arriver plus tôt?
Oui, et évidemment, c'est l'industrie qui réclame ça depuis longtemps. J'ai l'impression que, bon, malheureusement, dans plusieurs cas, ça arrive un peu tard. Hein, mm-hmm. Puis le temps que ce budget-là soit mis en œuvre, mis en musique, il y a déjà, on le sait, là, dans plusieurs régions, la région de la Tuque, sur la côte nord, des scieries qui ont carrément fermé. Puis une fois que c'est fermé, là, réouvrir, c'est excessivement compliqué. Souvent, les employés sont partis, se sont retrouvés ailleurs. Donc, encore une fois, un peu tard, malheureusement, peut-être. Mais oui, c'était nécessaire. La question qu'il va falloir se poser collectivement après, selon ce qui se passe là, dans la prochaine demi-année là, avec notamment les États-Unis, c'est que dans la mesure où il y aura des tarifs importants sur le bois d'œuvre québécois, dans quelle mesure est-ce qu'on veut continuer comme ça? Là, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Il va falloir trouver une solution. On ne peut pas perpétuellement subventionner l'industrie. Donc, est-ce que ça passe par l'innovation, par de la transformation, par de la productivité? Je suis pas là pour vous donner là, la recette magique, mais on peut pas simplement dire continuez comme ça, on va vous donner des subventions. C'est une mesure qui est un palliatif temporaire, mais si la situation se maintient comme ça avec les États-Unis, puis si par exemple l'entente Canada-États-Unis-Mexique n'est pas renouvelée ou est renouvelée à notre désavantage, il va falloir se poser sérieusement la question de l'industrie forestière. Puis par-delà, l'industrie elle-même, c'est toute la question de l'occupation du territoire. Là, c'est des villages, c'est des communautés souvent éloignées des grands centres qui vont se dévitaliser complètement. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Là, j'ai pas en deux secondes une réponse toute faite à vous proposer, mais le prochain gouvernement certainement aura cette question-là à répondre.
Tu parles du prochain gouvernement. Francis Gosselin, tu es docteur en économie. C'est quoi la valeur d'un budget qui est déposé à ce moment-ci pour un parti qui change de chef dans moins d'un mois puis qui risque de se faire tasser à la prochaine élection générale?
Ben le budget il est limitant là, puis les sommes vont être, les enveloppes vont être octroyées à des ministères, à des organismes. Je veux dire là, oui, il y aura un nouveau premier ou une première ministre dans quelques jours là, le 12 avril de mémoire. Oui. C'est quand même assez, comment dire, il y a le 250 millions de jeux là, mais ça reste quand même assez contraignant. Si le prochain ou la prochaine première ministre veut ajouter des éléments de budget, il va falloir passer par des lois, puis donc revoter et tout ça, c'est pas simple. Donc ça va être attaché. Puis je serais très surpris qu'un nouveau gouvernement, quelle que soit la couleur ou la saveur, élu en octobre, le temps de se mettre en place de un cabinet, ils vont pas refaire un budget le 15 novembre. Là. Ils vont peut-être apporter quelques aménagements, mais probablement qu'ils vont se mettre en mire pour nous refaire un budget en début d'année 2027. Et donc, là, effectivement, c'est le dernier budget de Girard qui risque de durer là, pour à peu près les 11 prochains mois. Là.
Francis, il y a une question qui est entrée un peu plus tôt par texto. Est-ce que c'est possible que le déficit est plus petit vu le prix du gaz, puis qu'on prévoit avoir plus de revenus que prévu?
Pas tant, honnêtement. Je sais que c'est fâchant comme réponse peut-être, mais tu sais, il y a plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les augmentations de revenus liées au prix de l'essence, c'est essentiellement la TVQ. Hein. Les autres taxes là, provinciales, c'est des taxes au litre qui sont fixes. Fait qu'elles varient pas en fonction du prix, elles varient en fonction du volume. Puis l'affaire, c'est que quand le gaz coûte un peu plus cher, là, comme c'est le cas, puis comme ça a été le cas dans le passé, à la marge, les gens en consomment un peu moins. Tu sais, tu vas peut-être pas aller à Québec en fin de semaine, pas aller sur la Côte-Nord en fin de semaine, pas aller, pas faire tel petit déplacement que tu aurais fait parce que, coudonc, à 2$ le litre, c'est un petit peu plus cher. Donc, il y a une baisse de volume qui est perceptible. Puis l'autre affaire, c'est que plusieurs sociétés, plusieurs organismes qui sont subventionnés finissent, eux, par consommer aussi du gaz plus cher, hein, je sais pas, là, toutes les flottes là, d'Hydro-Québec, pis ça, ben, ça vient gruger aussi, c'est des coûts additionnels, pas tellement sous la forme de la taxe, mais sous la forme juste du prix de l'essence. Et donc ça vient réduire d'à peu près autant ou presque les revenus de l'État. Donc au net, il y a pas des milliards de dollars de nouveaux revenus qui rentrent dans les poches des États, là, surtout pas du Québec. C'est vraiment les pétrolières là, qui font le party actuellement, les pétrolières canadiennes et américaines. Parce qu'elles sont aucunement exposées au conflit, puis elles bénéficient pleinement de la hausse du prix. Là. Fait que le party est plus en bourse que dans les bureaux des gouvernements, malheureusement.
Francis, ce budget-là, tu dis quoi sur l'état de l'économie québécoise en ce moment? Je voyais notamment la croissance du PIB réel à 1,1%. Ouais. Bon, Éric Girard met de l'avant. Le pouvoir d'achat des ménages s'est amélioré de 9,2%. Notre écart de richesse avec les autres provinces. Il y a beaucoup de chiffres. Comment ce budget-là qualifie l'économie actuellement?
Pas très optimiste, évidemment. Là. Puis bon, c'est pas une grande nouvelle, mais je rappellerai qu'il y a 2-3 ans, on tablait sur de la croissance là, dans les 2%. Puis évidemment, tu sais, il faut comprendre qu'un gouvernement qui fait des déficits et qui a une dette accumulée, la dette en valeur absolue, là, je vous dis que c'est tant de milliards, bon, ça semble un gros chiffre, mais ce qui est vraiment intéressant pour les économistes, c'est de se demander en proportion du PIB, la dette en proportion du PIB. Et mettons que tu as, je sais pas, je dis n'importe quoi, 100 milliards de dettes, puis 400 milliards de revenus, ben, tu as 25%. Si tu gardes ta dette constante et que ton PIB, lui, augmente, ben, ton ratio de dette sur PIB, lui, il diminue d'autant. Le problème, quand tu n'as pas de croissance du PIB, c'est que, coudonc, tu continues à faire des déficits puis tu fais pas de croissance du PIB, donc le ratio, lui, il demeure élevé, ce qui fait qu'à chaque année, ça te coûte quand même plusieurs milliards de dollars pour payer les intérêts sur cette dette-là. Donc moi, quand je vois des projections là, comme ça à 1% de croissance, je me dis, on a un petit enjeu, là, malheureusement. Là. Ouais.
Francis Gosselin, je vais te laisser aller chercher les enfants à la garderie.
Merci, c'est gentil.
Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous autres cet après-midi. C'est super apprécié.
Bon budget.
Francis Gosselin, bon budget. Ça prend juste un économiste pour nous dire ça. Francis Gosselin, qui est docteur en économie, qui nous a aidé à décortiquer un peu le budget qui est sorti aux alentours de 16h15, un petit peu en retard. Véro?
Là, je suis en train de regarder d'autres éléments qui sont sortis. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de demandes d'aide. On connaît la situation actuelle pour tout ce qui est les besoins alimentaires. Oui. Les banques alimentaires qui ont besoin de ressources supplémentaires. Le public cible, le public qui en a besoin, en fait, a tellement augmenté au courant des dernières années, puis c'est diversifié. T'sais, il y a une portion de la classe moyenne maintenant qui, ponctuellement, a besoin d'aller vers ces ressources-là.
On a un montant
donc,
pour
on
ça.
A débloqué un 21 millions de dollars supplémentaires dès cette année pour augmenter le financement des banques alimentaires du Québec, qui, dans le fond, chapeaute tous les organismes que vous allez retrouver dans les différentes régions. Il y a au moins 40 millions de dollars sur 4 ans qui vont être consacrés à l'entreposage et à la réfrigération adéquate des denrées amassées par l'organisme pour éviter les pertes. Ça, c'était un autre enjeu. Là, j'ai essayé d'aller voir pour tout ce qui était transport collectif parce que du côté de Québec, il y a le projet Tramcité qui est là. Il y a toujours des questionnements sur une portion du financement. Il y a du transport collectif aussi dans la région de l'Outaouais, dans le secteur de Montréal. Ce serait une tarte de 1,2 milliard à se partager alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets d'envergure un peu partout dans la province, comme je vous le mentionnais. Au total, dans le PQI, par contre, on parle de 12,8 milliards de dollars, donc pour les 10 prochaines années. Par contre, les projets en planification à l'étude ne sont pas chiffrés ni attachés à un calendrier. Fait que ça donne... Ah, ce serait 300 millions pour le tramway de Québec. Merci beaucoup, Audrey, qui est donc budgété. On disait que le projet était déjà passé en phase réalisation. C'était le ministre Jonathan Julien qui avait utilisé ces termes-là. Là, on peut vraiment le qualifier de cette manière-là, alors qu'il était toujours en planification au courant des derniers mois sur un plan budgétaire. Il y a certains événements qui reçoivent des financements d'Ottawa. Donc, un 6 millions annuellement pour les prochaines années pour accueillir les qualifications finales junior Coupe Davis et Billie Jean King. Ça se déroule en 2006. La tournée Snowboard Cross, c'est Mont-Saint-Anne, c'est l'année 2026 aussi. Et le championnat mondial féminin de hockey sur glace en 2027. Avez-vous vu autre chose passer?
Vite de même. Moi, je ne dirais pas à date, mais effectivement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock.
Comment
là,
tu trouves ça, Antonine? Bien, il y a plein de choses, là, évidemment. Là, puis on est en train d'absorber tout ça. Ça nous touche moins à Québec, mais l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, dont on parle beaucoup dans
qui
les
a aujourd'hui
années,
des problèmes informatiques. Là.
Aujourd'hui, une panne informatique.
Ouais. Les fourmis puis les dentistes.
Exactement. Les chauves-souris, les écureuils, les ascenseurs qui tombent en panne avec des patients à l'intérieur.
C'est ça, un hôpital qui s'identifie comme un zoo ces temps-ci.
Épouvantable. Et, Christine Fréchette a promis de s'attaquer plus rapidement là, à la réfection de cet hôpital-là. Mais là, dans le budget, ce qu'on nous dit, c'est que l'échéancier qui était déjà prévu est maintenu. Donc, on ne voit pas une accélération des choses à HMR.
Alors qu'on avait choisi de commencer plus rapidement les premiers travaux qui, tristement parlant, sont des travaux de stationnement.
Oui, puis ça décourage le monde, mais c'est la première étape. Ouais. C'est normal que ça commence par le stationnement parce qu'il faut le faire pour pouvoir faire le reste. Mais le problème, c'est que c'est le seul élément qui est vraiment
enclenché,
budgété. Donc, c'est sûr que ça fait rouler beaucoup des yeux de dire « Bon, ben on va faire un stationnement, c'est un hôpital dont on a besoin. »
Puis c'est pas dans notre cours. Ouais. Mais c'est un symptôme de la maladie qui touche le Québec au grand complet.
Je m'excuse, c'est une honte nationale.
Tout à fait.
C'est une honte nationale et ça dessert beaucoup de gens sur l'île de Montréal. Donc, ça nous touche un peu moins, mais c'était très attendu. Un autre élément qui me frappe dans ce budget, c'est que j'ai l'impression que Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, a gagné quelques combats avec le ministre des Finances.
Oui, exactement. Entre autres, avec l'aide aux médias qui était demandée. Donc, on crée un crédit d'impôt pour les médias d'information. On va soutenir les entreprises qui produisent de l'information originale d'intérêt général. Donc, il y a un 40 millions sur 5 ans qui s'ajoute au montant qui avait déjà été prévu pour soutenir la presse d'information écrite. La télégénéraliste privée, la radio commerciale, les agences de presse vont avoir droit à ce nouveau crédit d'impôt-là. Par contre, l'aide va être axée uniquement sur les activités journalistiques.
Autre élément culturel, c'est les sorties culturelles qui avaient été
coupées. On en a parlé
dans
tantôt,
les écoles. Puis ça peut sembler un détail, mais ça faisait vraiment beaucoup de vagues, énormément de déceptions. Et il faut le dire, là, pour certains enfants, t'sais, l'école, c'est aussi un lieu de... où on essaie d'amoindrir les disparités sociales.
Exactement. Puis, tu sais, si, mettons, dans votre famille, des activités culturelles, vous en faites, c'est pas le cas de tous les enfants
vraiment
à travers
pas.
La province. Puis, il y en a que ça passe par l'école, d'avoir accès à ça. Puis, parfois, ça peut développer des passions, mais ça peut juste faire aussi qu'un enfant va se sentir moins isolé, moins différent.
C'est ça j'allais dire. Puis même au-delà de ça, il y en a pour qui ça les accroche, en fait, à l'école,
c'est
d'avoir ça.
Complètement.
Pas tout le monde qui tripe sur le sport-études, là, ou c'est sport, puis les affaires
le
soir.
Raison.
Puis, fait que j'ai l'impression que ce volet-là aussi, on n'arrête pas de dire qu'on veut se battre contre le décrochage.
Puis aussi, c'est que ces sorties culturelles-là, ben, les artistes puis les artisans du milieu culturel, ils aiment beaucoup mieux recevoir des enfants des écoles qui viennent les voir plutôt que des subventions pour les tenir en vie. Exact. Ça vient aussi améliorer la vitalité du milieu culturel. Exactement.
C'est énormément de chiffres. On saura vous tenir au courant d'ici la fin de l'émission. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Je trouve ça le fun, ça crée de l'interaction. De ce que je comprends, si on répète, il n'y a rien qui nous touche directement dans notre portefeuille comme contribuable, j'ai
en
envie
fait,
de dire.
Il y a des journalistes qui sont allés faire le tour, effectivement, sur ce qui pouvait avoir une influence sur les contribuables.
C'est ça,
on le savait
intéresse.
Déjà hier, là, les nouvelles places en garderie subventionnées, on a comme converti 5 000, certaines places, exactement. Mais ça, on le savait déjà. Puis c'est sûr que pour certaines personnes, ça va changer une partie des dépenses. Il y a des subventions pour se protéger des inondations. Ça, c'est certains secteurs de la province qui sont particulièrement touchés par ça. Des thermopompes chez les locataires, c'est les propriétaires d'immeubles locatifs. Puis ça, il était putain inclus dans le programme Logiver d'Hydro-Québec. Là, il y aura une partie de ces installations-là qui vont être financées. Fait que ça va permettre pour les locataires d'économiser sur l'énergie. La taxe scolaire, qui est à 3% maximum dans son augmentation, ça touche à peu près tout le monde qui paye des taxes. Bien, franchement, on s'en rend plus ou moins compte parce que oui, les taxes scolaires sont moindres versus les autres taxes, mais quand même, elles sont là. Il n'y a plus de gens admissibles au supplément loyer. On a investi un 21,4 millions sur 3 ans pour mettre en place cette mesure-là.
Et dans le budget, il y a aussi un enjeu important dont on parle beaucoup depuis le début de l'année, c'est la lutte au féminicide.
Oui.
Donc, ça me frappe quand même de voir que c'est un gouvernement qui aime bien aussi répondre aux tendances dans les médias. Là. On en parle beaucoup. Oui. Il y avait une mobilisation pour la lutte au féminicide et il y a des mesures dans
260.
Le budget.
Millions là, supplémentaires sur 5 ans.
Effectivement, puis notamment pour des mesures très concrètes là, comme l'élargissement des bracelets anti-rapprochement. Puis on sait qu'il y avait eu pas mal de coupures au ministère de la Sécurité publique.
Ça, c'est rendu où? Hein? Puis peut-être que là, je pose la question puis on n'a pas de réponse.
C'est parce qu'il y avait eu des plans qui avaient été coulés parce qu'ils ne se tenaient pas debout. Puis finalement, c'est Yann Lafrenière, le ministre de la Sécurité publique, qui avait reculé en disant non, ça n'a pas de bon sens. C'était entre autres les SQ qui allaient fermer certains postes de différents secteurs, puis on diminuait certains services aux citoyens, la surveillance exactement, puis il y avait un peu de politique qui s'était fait derrière tout ça, puis c'est pas pour rien que ça s'était retrouvé dans les médias pour forcer une réaction. En fait, il faut savoir que quand il y a eu le dernier budget, quand on a demandé un effort à tous les organismes en dessous des ministères, on leur disait « vous devez sauver le plus possible dans le budget, proposez-nous des plans ». Puis c'est un plan qui avait été proposé et qui avait été refusé par le ministère.
Dans les prochaines minutes, on va prendre le temps de jaser avec Samuel Tremblay-Michaud, qui est chroniqueur automobile. Peut-être que lui aura suivi le volet plus automobile, justement, du budget, à savoir s'il y a des choses qui peuvent potentiellement nous toucher avec les subventions. Je pense aux véhicules électriques, entre autres. Donc, on pourra jaser de ça un peu, puis on va essayer de se trouver des sujets un peu plus légers aussi à aborder. Genre, le gaz coûte cher, fait qu'on fait comment pour économiser?
À part pour bouger, mettons.
C'est
là.
Ça. 88-971-1021, vous êtes dans Gravel, dans le retour, s'il y a quoi que ce soit. Vous n'hésitez pas. Bon, on revient.
Vous pensiez durer jusqu'à l'été puis être correct en restant ici, puis finalement, le moins 22 ressenti ce matin vous a fait vous remettre en question. Vous rêvez d'eau turquoise, de plages bordées de cocotiers, de cultures vibrantes et de chaleur humaine. Sachez que les îles de Guadeloupe, ben, c'est le genre de voyage qui va vous faire décrocher et dont vous pouvez encore profiter parce que c'est toujours possible de s'y rendre en vol direct au départ de Québec et ce jusqu'à la fin du mois d'avril. Que vous vouliez voyager seul, en couple, en famille, entre amis, que vous ayez le goût d'un voyage d'aventure ou simplement de relaxer et de profiter. C'est une destination qui se prête à tous ces styles de voyage-là. Vous pouvez faire de la plage pour la détente, pour le snorkeling. Vous avez des eaux cristallines, des criques sauvages. Vous pouvez aller faire de la plongée, que vous soyez un habitué ou encore un débutant. Il y a des récifs coralliers, des poissons tropicaux pour vous autres, de la nature, des randonnées, mais surtout de la culture et de la gastronomie créole qui est simple, savoureuse, authentique. Vous allez rencontrer des gens. Ça va faire partie de votre expérience de voyage. Donc, les vols directs au départ de l'aéroport international Jean Lesage se poursuivent jusqu'à la fin avril. Pour plus d'informations, lesîlesdeguadeloupe.com. Les îles de Guadeloupe, ça se prend bien.
Depuis